Alors, juste pour vous dire que le communiqué d'Alstom vient tout juste de sortir. Donc, ils achètent Bombardier Transport pour une somme d'autour de 8,3 milliards de dollars canadiens. Et effectivement, la Caisse de dépôt devient le premier actionnaire d'Alstom avec 18 % donc de la compagnie. Donc, c'est confirmé. Tout ce qu'on vient de vous dire est confirmé. On s'en va rejoindre Philippe Bonneville au Palais de justice, journaliste Cogeco Nouvelles qui couvre le procès de Éric Salvaille pour nous. Bonjour, Philippe.
Salut Bernard.
D'abord, la victime témoigne présentement, n'est-ce pas?
Oui, depuis 9h30 ce matin, Donald Duguay est à la barre des témoins. Et je dois dire, Bernard, que cet homme-là, il décrit avec beaucoup de précision, beaucoup de détails tout ce qu'Éric Salvaille lui aurait fait subir durant une période de 8 mois. Mm-hmm. Ça se passait au début des années 90. D'ailleurs, il a qualifié ce matin Salvaille d'être excessivement vulgaire, tant au niveau des paroles que des gestes. Je te donne un exemple pour que nos auditeurs puissent comprendre un peu ce qui se passait dans les bureaux de Radio-Canada, parce que c'était à Radio-Canada principalement que ça se passait. À ce moment-là, il faut rappeler aux gens aussi que Éric Salvaille n'était pas connu. Là. C'était pas une personnalité publique. Il travaillait au service du courrier comme la victime présumé Donald Duguay. Et à un certain moment, dans les bureaux, souvent, bon, il se faisait dire Donald Duguay par Éric Salvaille, t'as un beau petit cul, t'as des belles fesses, je te ferais pas mal, des choses comme ça. Beaucoup de commentaires déplacés. Lui touchait souvent aussi les fesses. Mais il y a un certain moment où Éric Salvaille, dans le bureau, a dit à Donald Duguay, retourne-toi. Donald s'est retourné. Et ce qui se passait, c'est qu'Éric Salvaille avait les pantalons baissés et se masturbait dans un bureau de Radio-Canada en regardant Donald Duguay. Ça vous donne un exemple des gestes déplacés qu'aurait commis Éric Salvaille aux dépens de Donald Duguay. Et tout ça, Bernard, a culminé quand Éric Salvaille l'aurait rejoint dans une salle de bain de Radio-Canada en 1993. Salvaille se serait alors dénudé le bas du corps, se serait masturbé en se frottant sur les fesses de sa victime. La victime dit « J'étais dans un état de panique à ce moment-là. J'ai craché au visage de Salvaille parce que je voulais me sortir de cette position-là. Salvaille m'en empêchait. Il tentait seulement de trouver une façon de me déshabiller, il m'embrassait partout et finalement, il a réussi à repousser Salvaille. Salvaille s'est retrouvé au sol et à ce moment-là, il a dit à sa victime, il a supplié, semble-t-il, de ne rien dire à personne. Donc, ça vous donne une idée des propos de l'agression sexuelle et du comportement d'Éric Salvaille raconté ce matin par cette victime-là.
Comment réagit Éric Salvaille?
Il faut vous dire que la salle, elle est bondée. C'est une petite salle d'audience ici, 3e étage du Palais de justice de Montréal, une 30aine de places. Éric Salvaille est assis en première rangée. Il est stoïque, ne parle pas, prend des notes, est assis donc dans la première rangée et il a un calepin devant lui. Va certainement tenter de conseiller son avocat. Et pendant que je te parle, c'est oui. Le contre-interrogatoire qui est commencé. Ce matin, c'est la couronne qui posait des questions. Là, c'est l'avocat d'Éric Salvaille qui pose des questions. Combien de temps ça va durer? On ne le sait pas. Et l'autre gros point d'interrogation, Bernard, c'est est-ce qu'Éric Salvaille va, oui ou non, témoigner dans le cadre de...
Oui, exactement. Est-ce qu'il va, oui ou non, témoigner? Et je pense qu'on vient de perdre Philippe, mais l'essentiel avait été dit. Merci Philippe, on te laisse aller. Conrad Delors est avocat criminaliste et sa particularité, c'est qu'il a déjà été procureur de la Couronne. Bonjour Conrad Delors.
Bonjour.
Partez-nous de là où Philippe l'a laissé, là. Contre-interrogatoire, donc, qui commence, contre-interrogatoire de la victime alléguée, Donald Duguay. Qu'est-ce que tu essaies de faire, toi? T'es l'avocat de Salvaille. Comment tu t'y prends?
Bien, c'est sûr qu'il faut quand c'est un dossier ou c'est un procès où, essentiellement, c'est une question de fait et non pas une question de droit. Donc, le juge va devoir évaluer la crédibilité des témoins. Et là, encore une fois, on reviendra par la suite au fait que l'accusé témoigne ou ne témoigne pas. Là, mais si on parle de contre interrogatoire, la partie la plus importante, pour moi, si je suis avocat de défense, c'est de faire sortir les... De le mettre en contradiction, parce qu'il y a eu une enquête préliminaire avant, il a fait des déclarations aux policiers. Donc, l'avocat a comme 3 éléments devant lui. Et là, il connaît son plan de match. Il va regarder si, premièrement, il répond la même chose. Donc, pour le mettre en contradiction, on va essayer de l'interroger, de le contre-interroger, c'est-à-dire sur des faits collatéraux. Donc, pour voir si la mémoire est fidèle, s'il se rappelle de choses. Parce que lorsqu'on parle d'un événement, c'est assez rare comme que l'accusé ou que la victime, pardon, va se contredire sur un élément précis de l'infraction. C'est assez rare. Quand la personne dit « il m'a touché », tu as beau lui poser 50 millions de questions, il va vraiment répondre la même chose. Alors, tu y vas de façon collatérale. Il y avait qui de présent? C'était quelle heure? Tu as fait quoi la veille? Alors, juste pour amener la victime à est-ce qu'elle dit techniquement la vérité dans l'ensemble de ses réponses ou bien c'est une mémoire sélective. Ça, c'est l'objectif du compte interrogatoire.
Pour susciter éventuellement, s'il a deux versions, s'il se contredit sur certains points, l'objectif, c'est de susciter le doute raisonnable dans l'esprit du juge. Parce qu'il faut rappeler, c'est devant juge. Il avait d'abord demandé devant juge et jury, ouais. Éric Salvaille, et finalement, il a changé d'idée, il a demandé un procès devant juge seul. Donc, l'idée, c'est de susciter le doute dans l'esprit du juge.
Oui, parce que la Cour suprême a été claire, mais les règles de base, c'est que le juge ne doit pas prendre plus pour un que pour l'autre, parce que le juge n'était pas là. Donc, il ne peut pas... Le juge, là, ce qu'il doit faire, c'est se dire, est-ce que, dans l'ensemble des témoins que j'entends, est-ce que j'ai un doute par rapport à l'événement? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, qui fait en sorte que... Prenons l'exemple où M. Salvaille témoigne, la personne donne une version, et que le juge se rend compte que les deux versions semblent crédibles. Je dis bien « semblent ». Mais le juge doit acquitter. Il y a des règles de base là-dessus. Tu ne peux pas simplement te mettre à la place de l'une et de l'autre, parce que sinon, il y aurait toutes sortes d'éléments autres que ce que tu entends qui pourraient faire en sorte que le juge soit influencé. Donc, le juge, lui, va vraiment se fier à la crédibilité de ce qu'il entend, puis il va se faire une tête aussi sur la véracité, sur ce qui est dit. Est-ce que c'est vraisemblable, tout ça? Alors, c'est ça l'objectif que le juge va faire durant l'évaluation de ce procès-là.
Mais Conrad Lhomme, tu sais, au début, là, lorsque la presse a sorti ses reportages, on parlait de 11 personnes. Okay, il y avait 11 personnes qui confiaient avoir subi des gestes sexuels déplacés de la part de Salvaille ou qui en avaient été témoins. Là, on se retrouve avec une seule victime alléguée. Hein, je pense qu'il faut quand même présumer, là, il faut attendre la fin du procès. Là.
Oui, forcément. Hein? Bon. Ben oui, mais bon. Il y a une présomption d'innocence.
Voilà. Alors là, on a une victime et on a un agresseur allégué. Donc, c'est la parole d'une personne contre la parole de l'autre personne. C'est avec ça qu'on se retrouve, là.
C'est une confrontation des deux, c'est clair. C'est ça que le juge, je le disais, à moins de... Dans ce cas-là, je connais pas tous les détails de la preuve, là, mais je doute qu'il y ait d'autre chose que deux versions contradictoires. Là. On est vraiment dans l'évaluation de la crédibilité des témoins. Il n'y a rien d'autre, là, c'est clair.
Alors, dans un contexte comme celui-là, où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, je suis pas juriste, mais il me semble que les probabilités sont assez élevées que Éric Salvaille aille à la barre, non?
Bien, en fait, il y a deux. Comme avocat de défense, tu prépares toujours ton client témoigner, mais comme ce n'est pas une obligation, il faut que les gens le comprennent bien, il n'y a pas de renversement de fardeau où l'accusé doit témoigner dans un cas comme ça. Donc, c'est vraiment l'avocat. Et là, c'est là que toute la stratégie, la préparation et aussi, j'allais dire, l'expérience de l'avocat va faire en sorte qu'après ce que tu as entendu là, est-ce que le juge a un doute ou bien il faut vraiment que le client témoigne? Je vous dirais que dans bien des cas de cette nature-là, les accusés vont témoigner parce que c'est assez rare que les gens vont se contredire sur un élément essentiel de l'infraction. Alors souvent, c'est un gros risque de ne pas le faire témoigner, bien que ce n'est pas une obligation, mais si tu ne le fais pas témoigner, des fois, tu peux avoir des surprises. C'est sûr que le choix de juge seul, c'est un choix stratégique, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il est coupable pour autant, là, je vais le préciser, mais c'est un choix stratégique.
Pourquoi?
C'est une cause médiatisée au départ. Fait que c'est sûr que tu as 12 personnes qui sont pas habituées, qui vont devoir mettre de côté leur idée préconçue, hein, c'est ça l'idée, et d'appliquer les règles de droit là sur le doute raisonnable, la version contradictoire, c'est loin d'être facile pour le commun des mortels, c'est pas souvent facile pour le juge, mais le commun des mortels a peut-être la difficulté. Alors, stratégiquement, quand l'avocat évalue toute sa preuve, parce que tu décides pas ça comme ça, puis quand les gens se posaient la question pourquoi qu'il a pris un peu de temps pour y réfléchir, est-ce que c'est parce qu'il se sentait plus coupable que pas coupable? C'est pas ça du tout, là. C'est qu'à un moment donné, comme avocat, tu dois évaluer ce que tu as entendu antérieurement, ce que tu as entendu de ton client, stratégiquement, comment un jury pourrait percevoir ça. Et là, tu peux décider. C'est ça que le code prévoit. Tu as le droit de changer d'idée. Tu dois décider qu'un juge seul, pour ce type de dossier-là, sera probablement plus facile de faire abstraction à tout ce qui est dit. Et là, je reviens à ce que vous venez de dire. le fait qu'il y ait 11 versus 1, ben un juge, en principe, là, va mettre ça de côté parce que tous les jours à la cour, là, il y en a des dossiers pour lesquels t'entends dire que si, t'entends dire que ça, puis tu te retrouves devant la cour, même annoncé par la couronne, il n'y a plus trois témoins, il n'y en a juste un. Mm-hmm. S'il fallait que tu te poses trop de questions, tu ne pourrais jamais juger. Mais 12 personnes peuvent se dire, mais voyons donc, qu'est-ce qui arrive dans cette affaire-là? Fait c'est sûr qu'il y a des pour et des contre.
Fait que l'avocat, là, en terminant, ouais. Conrad, là, l'avocat là, de Salvaille qui est en train de contre-interroger la victime potentielle, là, dans le fond, s'il réussit à démolir, ou en tout cas à semer le doute sur la crédibilité du témoignage, il ne sentira peut-être pas le besoin de faire témoigner Salvaille. Hein? Il peut décider, ben oui, il peut décider au terme de son contre-interrogatoire, j'ai suffisamment démoli le témoignage, je pense que je suis correct, j'ai pas besoin d'amener Salvaille à la barre. Par contre, si le témoin est bon, là, s'il est crédible, s'il est solide, à ce moment-là, il pourrait être obligé d'amener Salvaille pour venir essayer de contredire, dans le fond, le premier témoignage. Et là, c'est le juge qui doit décider de la crédibilité de l'un et de l'autre.
Ouais, puis le juge peut pas tenir compte du fait que tu témoignes pas pour te déclarer coupable sur la crédibilité. Par contre, 12 jurés, si tu témoignes pas dans une cause pour laquelle on veut te faire condamner, puis on prétend que tu as été ci puis tu as été ça, les jurés peuvent avoir de la difficulté à ne pas se questionner, mais pourquoi qu'on ne l'entend pas, cet individu?
Qu'est-ce qu'il a caché? Hein? Qu'est-ce qu'il a caché?
En fait, c'est ça. Ben oui, c'est ça la stratégie. Mais devant le juge seul, on n'est pas devant cette situation-là, mais c'est certain, en terminant, que le contre-interrogatoire, dans ce cas-là, c'est un élément décisif par rapport au fait qu'on va faire entendre ou non notre client.
Voilà.
Et la suite, ben, on verra comment ça va se poursuivre et j'espère que vous allez me réinviter pour commenter la suite.
Ben, si vous suivez ça pour nous, ça nous fera plaisir de vous réinviter.
Ça va me faire absolument.
Maître Conrad Laure, avocat criminaliste, ancien procureur de la Couronne. À la prochaine.
Alors, à la prochaine. Bonne journée à tous.
Salut.
Merci. Au revoir.
Toi aussi. Dans un instant, le blocus ferroviaire va nous coûter cher dans un instant.